Avant de plonger dans votre prochain épisode de Course Épique, je voulais vous parler de l'Odyssée ASPTT, le podcast qui retrace une épopée sportive de 125 ans. Le mouvement ASPTT propose une multitude d'activités sportives pour tout niveau, du débutant au confirmé, dans toute la France. J'ai particulièrement aimé dans ce podcast l'alternance entre les anecdotes historiques sur de nombreuses disciplines sportives et les témoignages en immersion des adhérents de l'association. C'est à la fois rythmé, vivant et instructif. Avec ce podcast, vous allez vous plonger dans l'odyssée de cette association, véritable pionnière dans la démocratisation du sport en France. Et puis les 4 épisodes de l'Odyssée ASPTT mettent en lumière ce qu'il y a de plus essentiel dans le sport selon moi. Les notions d'égalité, de solidarité, d'inclusion et d'accessibilité. Et dont la course à pied est d'ailleurs une très belle expression, vous êtes bien placé pour le savoir. Vous savez désormais ce qu'il vous reste à faire. Faites comme moi, courez découvrir les 4 épisodes de l'Odyssée ASPTT sur votre plateforme d'écoute favorite.
Bah aujourd'hui, c'est une maladie qui ne se guérit pas encore. Donc, c'est la maladie génétique la plus rare mortelle. Aujourd'hui, non, on ne guérit pas de la mucoviscidose, mais il y a de plus en plus d'espoir, il y a de plus en plus de traitements et de prises en charge. Moi, en 1997, au diagnostic de ma maladie à l'âge de 2 ans, on a dit à mes parents... si votre enfant voit l'adolescence, ça sera déjà super. Bon, aujourd'hui, j'en ai 26 ans, donc j'ai passé l'adolescence et je crois dur comme fer à l'avenir et j'y ai toujours cru en fait. J'ai jamais senti cette épée de Damoclès au-dessus de ma tête, malgré le fait que la maladie, à un moment donné, prend de plus en plus de place et on se dit que la greffe, en fait, ce qui est le seul échappatoire pour continuer à vivre, va arriver et je vais devoir affronter cette épreuve. Dans mon livre, je m'adresse à mon donneur sur une lettre où je vis pour deux, le titre. Et là, ce marathon, ça peut être, mais enfin, en tout cas, moi, je me dis que c'est fou parce que c'est juste de la course à pied. Et ça m'a rapproché intimement de cette personne. J'y ai jamais autant pensé que quand, dans ma préparation marathon. Et donc, je courais pour moi, je courais pour cette personne. Je courais aussi pour sa famille qui l'a perdue. Mais je cours pour cette personne qui n'a certainement pas eu la vie qu'elle aurait rêvée et les projets qu'elle aurait voulu faire. Donc, je me dois, pour moi, en fait, si on est greffé, on ne doit pas se mettre dans une bulle et rester dans son canapé pour que tout se passe bien. Pour moi, c'est une sorte de responsabilité et un respect pour cette personne que de vivre pleinement. Et donc, courir ce marathon, forcément, ça m'a rapproché d'elle.
Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Pour commencer, un rapide mais très sincère merci à tous pour vos encouragements et vos retours enthousiastes sur les derniers épisodes du podcast. Si vous avez envie de soutenir Course Épique, les 3 meilleures choses à faire, vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, noter et rédiger un avis sur Apple Podcasts, et enfin en parler largement autour de vous sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Et n'oubliez pas, pour ne rien manquer des coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. Je vous propose de vivre aujourd'hui un épisode exceptionnel de Course Épique. Une chose est sûre, cette interview a été une rencontre très marquante pour moi. J'ai eu le plaisir d'échanger avec Alexandre Alain, qui vient de courir il y a quelques jours le Marathon de Paris. Alexandre n'était pas tout à fait un coureur comme les autres sur la ligne de départ ce jour-là. Les médecins ont en effet diagnostiqué à Alexandre une mucoviscidose alors qu'il était âgé de 2 ans. Il a depuis toujours pris le parti d'aller de l'avant et d'appréhender la vie avec un formidable enthousiasme et une immense détermination. La vie d'Alexandre a basculé, pour le meilleur, un soir de juillet 2017, lorsqu'on lui a proposé une double greffe des poumons, alors que ses capacités pulmonaires avaient atteint à cette période des niveaux préoccupants. Alexandre a tout au long de sa vie continué à aller de l'avant, à entreprendre et à se lancer dans des projets sportifs ambitieux, jusqu'à ce marathon de Paris 2021 qu'il va nous raconter aujourd'hui. Vous l'aurez compris, comme très souvent dans Course Épique, l'histoire que vous allez entendre aujourd'hui, ça n'est pas seulement l'histoire d'une course, c'est l'histoire d'une vie. Et celle d'Alexandre est profondément touchante et porteuse d'espoir. Vous allez l'entendre, cet épisode fait du bien. Mais je ne vous en dis pas plus. Alexandre va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique. Souffle d'espoir.
Bienvenue sur Course Épique, le podcast running et trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course inoubliable grâce au témoignage de son invité. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un invité, une course, une histoire hors du commun. Bonne écoute!
Bonjour Alexandre, bienvenue dans ce 52e épisode de Course Épique. Tu as eu le mérite de boucler il y a peu le Marathon de Paris, une prouesse absolument remarquable dont on va avoir largement l'occasion de reparler aujourd'hui. Ce que tu vis depuis, en tout cas, compte tenu du nombre de sollicitations de la part des médias, ressemble plutôt à la Diagonale des Fous version XXL. Ça va, tu tiens le rythme? T'as pas envie de te faire une petite pause au ravito, là?
Non, ça va, c'est même l'objectif, moi, de mes aventures et de m'être élancé sur le Marathon de Paris. Donc, c'est sûr que c'est un véritable marathon médiatique qui m'attend depuis mon arrivée, mais j'en suis très heureux.
Et qui est pas prêt d'être terminé, d'ailleurs.
Non, c'est pas prêt d'être terminé, mais tant mieux, parce que ça va permettre de se relancer sur de nouveaux objectifs et de nouveaux projets.
Pour commencer, Alexandre, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots à nos auditeurs? On enregistre aujourd'hui cette interview depuis Le Mans. T'es originaire de la région, c'est ça?
C'est ça, je suis sartois, j'ai 26 ans, je viens tout juste de terminer mes études et je suis né avec une petite particularité, c'est la mucoviscidose.
Cette mucoviscidose dont on va beaucoup parler aujourd'hui, elle a été diagnostiquée à l'âge de 2 ans. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette maladie dont le nom est de plus en plus connu par le grand public et notamment du fait de la notoriété de Grégory Lemarchal qui a largement contribué à la faire connaître cette maladie? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur elle et puis comment elle se traduit concrètement pour les gens qui en souffrent?
Aujourd'hui, c'est une maladie qui ne se guérit pas encore. Donc, c'est la maladie génétique la plus rare mortelle. Aujourd'hui, non, on ne guérit pas de la mucoviscidose, mais il y a de plus en plus d'espoir, il y a de plus en plus de traitements et de prises en charge. Moi, en 1997, au diagnostic de ma maladie à l'âge de 2 ans, on a dit à mes parents, si votre enfant voit l'adolescence, ça sera déjà super. Bon, aujourd'hui, j'en ai 26 ans, donc j'ai passé l'adolescence. Et je crois dur comme fer à l'avenir et j'y ai toujours cru en fait. J'ai jamais senti cette épée de Damoclès au-dessus de ma tête, malgré le fait que la maladie à un moment donné prend de plus en plus de place et on se dit que la greffe en fait, ce qui est le seul échappatoire pour continuer à vivre, va arriver et je vais devoir affronter cette épreuve.
Est-ce que tu as le souvenir d'avoir une enfance et un début d'adolescence qui était très contraint par la maladie? Est-ce que c'était rythmé par des traitements, des hospitalisations? Concrètement, ton quotidien, il était comment?
Je vais dire jusqu'à mes 12-13 ans, la maladie, elle était là, mais elle prenait pas énormément de place. C'était des séances de kiné, oui, tous les jours, mais pour moi, c'était ma normalité. Et la prise de médicaments, et c'était un rendez-vous à l'hôpital tous les 3-4 mois. Donc pour moi, je me sentais pas aussi différent que ça. Et c'est quand la maladie a pris de plus en plus de place vers l'adolescence. Donc là, c'est de plus en plus de séances de kinésithérapie, ça commence à devoir être alimenté par perfusion la nuit. C'est des longues hospitalisations pour faire des cures d'antibiotiques. Donc là, oui, la maladie a pris de plus en plus de place à partir de mon adolescence et jusqu'à ma greffe.
Cette maladie, donc, elle a plus ou moins toujours fait partie de toi. Est-ce que tu l'as acceptée par la force des choses? Est-ce que tu as appris dès le début à composer avec et finalement, ça fait partie intégrante de toi?
Ma maladie, au départ, je me rebellais un peu contre elle. Je détestais les traitements, je voulais pas les faire. J'en faisais même pas beaucoup et pas assez. Mais après, au fur et à mesure, j'ai appris à l'apprivoiser et à me dire, Alex, la maladie, elle est là. Donc, de toute façon, t'as pas le choix. Donc, va falloir que t'avances avec et faut que ça devienne un véritable moteur et une force dans ta vie. Et à partir de ce moment-là, c'est devenu une véritable force. Et moi, oui, j'ai la mucoviscidose, mais la mucoviscidose ne me définit pas. Je suis pas cantonné qu'à ça, et justement, c'est ce que je montre à travers mes aventures.
Là, tu viens de dire j'ai la mucoviscidose, ça veut dire que tu considères aujourd'hui encore que tu es malade ou enfin elle fait partie de toi encore?
Oui, parce que la mucoviscidose, ça touche plusieurs organes, quasiment tous les organes du corps. Donc là, on va dire que la greffe que j'ai eu la chance d'avoir en juillet 2017, ça m'a guéri peut-être au niveau du système respiratoire. Mais surtout ce qui est système digestif, le foie, les reins, la maladie, elle est encore présente. Donc je ne suis pas guéri, j'ai encore la mucoviscidose et je pense que je l'aurai toute ma vie.
Pour en revenir à tes plus jeunes années, est-ce que toi tu vivais comme un décalage entre ta propre perception de ton état et ta situation et celle que pouvait percevoir ton entourage? Parce que je t'entendais dire que tu es malade, mais que ce n'est pas ce qui te définit en fait. Enfin, c'est pas comme ça que toi tu te vois comme ayant une vie... À ta façon normale, est-ce que tu voyais un décalage justement et qui pouvait créer de l'inconfort, de la gêne ou des situations qui toi te frustraient par rapport au regard que tu pouvais recevoir des autres?
Je me suis posé cette question-là parce que j'ai eu la chance d'écrire un livre sur mon parcours. Donc je suis repassé par les moments de mon enfance pour savoir comment je le vivais. Et j'ai demandé à mon meilleur ami de l'époque s'il me sentait si différent que ça. Il me dit « Non Alex, nous on savait que tu avais la mucoviscidose, mais... tu faisais toutes les activités sportives avec nous, tu étais à l'école, on allait au foot ensemble, on allait en vacances ensemble. Donc, on n'a pas... En tout cas, lui, il n'avait pas ressenti cette différence-là. Mais par contre, je me suis aperçu que oui, mon état, lorsqu'on m'a obligé à m'alimenter la nuit, c'est parce que j'étais très maigre. Mais moi, je ne me voyais pas aussi maigre que ça. Et en fait, c'est quand j'ai pris ces 5-10 kilos en plus au bout d'un an et que je me trouvais encore maigre dans le miroir, je me suis dit... Ah ouais, ça veut dire qu'avant, avec 10 kilos de moins, j'étais vraiment, si aujourd'hui je me vois encore maigre, dans quel état j'étais auparavant, et je me voyais pas forcément comme ça. Et pareil, au moment de quand la greffe arrivait, bah là, c'est là où mon état était le plus compliqué. Mais pour autant, moi, je me voyais pas être sur le point de mourir, alors que il y avait des amis, des proches qui, eux, dans leur regard, sans vouloir me le dire... Et ils me l'ont dit après la greffe, quand je m'en suis sorti, c'était Alex, là on pensait vraiment que c'était les derniers moments tellement t'étais faible. Alors que moi, quand je le vivais, je pensais que je pouvais encore combattre et que je pouvais encore gagner quelques combats. Donc cette différence là, moi je l'ai pas forcément ressentie quand on la vit. C'est plus quand on prend du recul et qu'on se regarde de l'extérieur qu'on se dit que oui, là j'ai peut-être passé par des moments qui étaient pas forcément hyper chouettes.
Est-ce que tu as le souvenir d'avoir des loisirs qui étaient comparables à ceux de tes copains de l'époque? Est-ce que, enfin, voilà, il y a des choses qui t'étaient interdites, la pratique du sport, par exemple, sous quelle qu'en soit la forme. Est-ce que tout ça, c'était inaccessible pour toi?
Non, moi, j'ai toujours été un grand fan de sport. Enfin, j'ai mangé, dormi sport pendant toute ma vie, j'ai envie de dire. J'ai regardé que ce soit le Tour de France, les JO, le foot. Enfin, j'aime tous les sports et j'ai eu la chance de pratiquer le foot pendant une dizaine d'années. J'ai dû arrêter au moment où je me suis fait opérer pour m'alimenter la nuit parce que je pouvais plus recevoir de choc dans l'abdomen. Et donc, je me suis remis à ma première passion parce que quand j'étais enfant, je faisais de la danse et du foot en même temps. Donc, à ce moment-là de l'opération, je me suis dit, je veux continuer quand même le sport en pratique. Et donc, je me suis remis à la danse et ça m'a permis de continuer une pratique sportive.
Cette maladie, je pense qu'on va l'entendre et c'est vraiment une des choses qui ressort le plus des propos qu'on peut entendre de toi. C'est que tu l'as toujours prise avec beaucoup de détermination, d'espoir et de conviction. Est-ce qu'il y a des moments quand même qui ont été moins simples que d'autres dans ces plus jeunes années? Est-ce que tu as toujours eu confiance en l'avenir?
Les seules choses que j'ai pu reprocher à la maladie à un moment donné, c'est que cette maladie elle fait qu'on a un défaut de croissance et donc on fait beaucoup plus jeune que notre âge. Et donc là, en fait, c'était plus le regard des autres au moment des premières sorties vers 17-18 ans où on a envie de sortir avec ses amis qui ont le même âge que nous et où les gens nous regardent quand on va dans un bar, quand on va en discothèque et ils disent « Mais pourquoi le petit frère, il est là, il a quel âge ?» Là, pour moi, ça a été vraiment le plus dur à accepter et où là, j'étais vraiment en colère sur ça. Et d'autres moments compliqués, c'était vraiment au moment de me dire que je devais être aidé et devoir me mettre de l'oxygène et surtout me mettre dans un fauteuil roulant pour me déplacer. Pour moi, ça a été le plus compliqué à accepter, cette phase où je devais être aidé. Mais j'ai dû le faire et c'était sûrement de l'ego un peu mal placé de pas vouloir montrer que j'étais faible.
On parle parfois un peu moins des gens qui sont aussi très directement impactés par la maladie, donc à savoir ton entourage et ta famille très proche. Est-ce que vous avez géré ça là aussi dans ton souvenir et puis encore aujourd'hui de façon très harmonieuse et vous étiez aligné sur votre façon de gérer et de vivre cette maladie au quotidien et de vous projeter dans des perspectives les plus réjouissantes possibles, en tout cas l'envie de se projeter sur des choses positives?
Oui, en fait, moi, mes parents, ils m'ont inculqué des valeurs, c'était de croire à l'avenir. Ils m'ont pas mis, et je les en remercie, dans une bulle du fait d'avoir la mucoviscidose, donc à se dire, faut pas qu'il attrape la moindre bactérie. Qu'il fasse beau, qu'il pleuve, qu'il neige, j'avais droit d'aller au foot et ils m'en empêchaient jamais. On est une famille soudée, j'ai eu la même éducation que ma grande sœur et mon petit frère. Forcément, il y a une vigilance particulière sur moi. Mais par contre, au moment de, par exemple, choisir mon cursus scolaire, je me suis pas dit je vais faire des études les plus courtes parce que ça sert à rien, je vais pas vivre, j'aurai pas de projet. Donc moi j'ai fait une licence de droit et après un master d'école de commerce, donc ça commence à être un bac plus 5. Donc j'y croyais et ça me faisait pas peur de me lancer dans des longues études parce que je me dis pas que je vais mourir demain et que cet avenir, moi je le vois et je le vois dans 10, 15, 20 ans et il y aura pas de souci là-dessus.
Est-ce que les perspectives étaient connues? Est-ce que c'est des discussions sur desquelles tes parents te tenaient éloigné sur ton avenir et sur ce que tu pouvais espérer pour la suite et les années que tu avais devant toi?
Quand j'étais enfant, j'avais pas conscience que cette maladie, elle était mortelle. que j'avais une espérance de vie qui était beaucoup plus faible que mes amis autour de moi. Le premier gros choc, ça a été la mort de Grégory Lemarchal, parce qu'en fait, moi, je côtoyais pas d'autres personnes atteintes de la mycoviscidose, donc c'était une volonté pas forcément personnelle ni de mes parents, mais c'est parce que j'en avais pas eu l'occasion. Et donc, voir Grégory Lemarchal, bah, c'était la première personne qui était atteinte de la mycoviscidose que je connaissais bah, par ma télé. Et donc, je m'y suis identifié comme beaucoup de personnes atteintes de cette maladie. Et de te dire, bah voilà, si lui arrive à faire des choses aussi folles et vivre ses rêves, bah pourquoi pas moi ? Enfin, je voyais pas d'objection à ça. Et après, par contre, le coup de massue, ça a été quand il est décédé, parce que là, je me suis dit, ouais, même lui, alors qu'il est connu par tout le monde, il est chanteur, on voyait qu'il souriait tout le temps et tout, et il est décédé de la mycoviscidose. Et là, je me suis dit, ah donc oui, la maladie, elle est quand même mortelle. Et en fait, même mes amis autour de moi qui n'avaient pas cette conscience-là, bah, leur regard a un peu changé à se dire... Ah Alex, du coup, il va peut-être mourir jeune. Et en fait, il y a encore ça un peu dans l'idée du grand public, c'est la mycoviscidose est connue de tous les Français grâce à Grégory. Mais par contre, ils associent souvent bah, Grégory, jeune, décès, alors que maintenant, l'espérance de vie est bien plus forte. Et maintenant, elle tourne aux alentours des 50 ans, mais c'est aujourd'hui. Et moi, je crois pertinemment aux avancées de la médecine. Et ça ne cesse d'augmenter d'année en année. Donc voilà, moi, quand je suis né, c'était 15 ans. Aujourd'hui, c'est 50. Et qu'est-ce que ce sera dans... Moi, le seul bonheur que je peux me souhaiter, c'est de mourir d'autre chose que la mycoviscidose, quoi. Donc non, j'y crois à l'avenir.
Tu l'as dit tout à l'heure, je crois. Donc la greffe s'avère être la seule voie possible, la seule issue. Ça veut dire que la mycoviscidose, c'est une maladie qui progresse inéluctablement. La dégradation est progressive et systématique. Est-ce que tu peux avoir des cycles, des moments de mieux et des moments de moins bien? Ou est-ce que c'est vraiment une dégradation étape par étape?
Bah, en fait, chaque mycoviscidose est différente selon les personnes. Moi, la mycoviscidose, elle m'a touché les voies respiratoires et le système digestif. Il y en a d'autres qui touchent que les voies respiratoires ou que le système digestif. Moi, j'ai un peu le combo. Et voilà, quand la maladie, quand on a perdu cette capacité respiratoire-là, à un moment donné, c'est très dur de la reprendre. Il n'y a que les phases d'encombrement où là, on en perd, mais on a en capacité de les reprendre après par le sport. Mais une fois qu'on est descendu en dessous les 30% de capacité respiratoire, bah, on va rester en dessous de 30% de capacité respiratoire. Parce que moi, il n'y avait pas encore ces traitements-là qui se sont déployés depuis 2 ans dans la muco et où là, on peut passer de 30% de capacité respiratoire à maintenant 70% en 3 semaines. Grâce à ce nouveau traitement, ce traitement ne guérit pas de la mycoviscidose, mais permet des améliorations juste folles. Et en soi, moi, si j'avais eu ça, je m'en fiche de ne pas guérir de la mycoviscidose. Enfin, je l'ai depuis ma naissance. Mais ça ouvre un champ des possibilités, ça repousse l'échéance de la greffe à plusieurs dizaines d'années. Et tant mieux parce que bah, la greffe, moi j'en suis très heureux aujourd'hui, j'ai une vie qui a complètement changé. Mais par contre, bah, c'est une opération qui est lourde, il faut le savoir, je savais que j'avais des chances de mourir. Donc, il faut mieux pas y aller. Mais parce que quand tout se passe bien, c'est super. Mais moi, par exemple, ma première année... Oui, j'ai couru le marathon de Paris là, mais par contre, ma première année, j'ai fait 6 rejets de cette greffe. Donc, ça aurait pu entraîner des plus grosses complications, donc repasser par une nouvelle opération, une nouvelle greffe. Et là, on manque encore le risque de mourir. Donc, les améliorations sont notables et tant mieux.
Quel organe tu es en capacité de te faire greffer? Est-ce qu'un même donneur peut donner plusieurs organes? Est-ce qu'il y a des critères de compatibilité? Comment ça fonctionne?
Bah, c'est des critères de compatibilité assez poussés. Bah, le premier, c'est le groupe sanguin, qu'on est le même. Puis après, il y a plein de petits marqueurs dans le sang. On fait tout un bilan pré-greffe avant d'être mis sur liste pour que voilà, le donneur qui va nous faire don de ses organes ait la compatibilité la plus absolue avec nous. Et moi, on m'a greffé les 2 poumons, mais avant, on faisait le bloc cœur-poumon. Mais maintenant, on vérifie que si notre cœur est en capacité de tenir cette greffe, bah, on garde notre cœur. Moi, j'ai encore mon cœur. Et après, il y en a beaucoup après la greffe parce que les anti-rejets sont très nocifs. Ils doivent se faire greffer un rein parce que les reins ont pris beaucoup avec ces médicaments à forte dose. Donc, les reins sont de plus en plus malades et n'arrivent plus à faire leur travail. Donc, il faut se faire greffer un rein. Donc, il y a une multitude d'organes qu'on peut se faire greffer. Mais une personne qui malheureusement décède, peut en sauver 8 autres avec ses organes. Donc ça montre, voilà, c'est hyper important. Le décès et le malheur d'une famille peut faire le bonheur de 8 autres familles qui sont en attente d'une greffe pour un proche. Donc il faut en avoir conscience.
Est-ce que tu peux connaître l'identité du donneur ou est-ce que c'est forcément anonyme ?
C'est anonyme. En France, on ne peut pas connaître l'identité. Après, il y a un processus, si on le souhaite, à envoyer une lettre à l'Agence française de biomédecine à Paris, qui par la suite contacte les proches de la personne qui est décédée pour dire « Vous avez reçu une lettre, est-ce que vous voulez la lire oui ou non ?» Et après, est-ce que vous voulez répondre oui ou non ? Et donc là, il faut vraiment que les deux parties soient en total accord pour savoir qui est l'autre. Parce que moi, j'en connais, psychologiquement, ils veulent absolument connaître. Et donc, en fait, leur tête, elle dit bah, « c'est pas tes poumons ». Et ils font des rejets, mais parce que je pense qu'il y a une grande part de psychologie là-dedans. Moi, j'avais pas du tout cette volonté-là de connaître cette personne. Et en fait, c'est avec mes aventures et à chaque fois qu'on m'en parle, en fait, vu que je m'expose, on me parle beaucoup de cette personne-là. Et donc, ça m'a, moi, fait un cheminement intérieur. Et le fait d'écrire ce livre en même temps que ma préparation du marathon, alors que j'avais connu deux grandes aventures avant, c'est ces aventures qui m'ont permis, alors que sur le papier, c'était les moins folles comparé à un tour d'Europe de 11 000 km et un tour de l'Atlantique. C'est celles qui m'ont permis d'apprendre plus sur moi. Je pensais pas que courir un marathon et se préparer allait m'apprendre autant sur moi et sur ma personnalité, alors que je me disais c'est juste de la course à pied.
Tu as beaucoup de projets, on va avoir l'occasion de l'évoquer, cette volonté d'aller toujours de l'avant. Ce qui te motive, enfin ce qui te poussait à faire ça, c'était cette idée de diffuser, de partager l'espoir, c'était à te sentir pleinement vivant de cette façon-là, c'était de vivre des projets comme n'importe qui. Comment est-ce que tu construisais tous ces projets-là ?
J'ai une psychologue un jour qui m'a dit que je voulais tellement montrer que j'étais vivant après la greffe que je faisais des projets que des personnes lambda n'allaient pas faire. Mais je pense pas que j'ai cette mentalité-là de me dire profite de la vie parce que tu peux mourir demain. Enfin, tout le monde peut mourir demain. Donc j'ai pas cette volonté-là de cramer un peu par les deux bouts la vie. C'est moi, tous mes projets, il y a 50%, c'est pour moi personnellement, Alexandre Alain. Mais il y a 50%, c'est pour toutes ces personnes-là qui peuvent s'identifier à moi, comme moi j'ai pu s'identifier à Grégory Lemarchal. C'est là, à la suite du marathon, recevoir des dizaines de messages de personnes en attente d'une greffe ou greffées et que c'est compliqué et qu'ils ont pris conscience que moi aussi ça a été compliqué. Oui, là j'ai couru le marathon 4 ans et demi après ma greffe, mais j'ai vécu une année de convalescence, mais plus que difficile. Donc voilà, on peut avoir des... chaque parcours est différent. Mais je pense qu'on peut tous s'en sortir. Et moi, c'est la tête qui fait beaucoup. J'étais en période de rejet pendant un an, mais j'avais cet objectif-là de faire ce tour de l'Atlantique. Les médecins m'ont dit « Mais tu es fou, tu prends trop de dangers, on est totalement contre. » Mais je continuais à construire ce projet, je continuais. Et le jour où j'ai mis les pieds sur le bateau, en un an, j'ai pris 20% de capacité respiratoire. Et là, je leur ai montré que la tête et l'épanouissement personnel, ça peut faire plus que des simples traitements. Malgré que les traitements, il faut les faire. Hein. Et justement, il y a cette surveillance-là absolue à avoir avec la greffe et prendre ses anti-rejets. On ne peut pas y passer à côté. Mais je pense que la tête fait beaucoup.
Tu nous as parlé de ce projet qui est un tour de l'Atlantique que tu as fait en 2019. Avant ça, en 2014, donc avant que tu sois greffé, tu as fait un tour d'Europe en R6. Donc c'est une aventure dans 19 pays et 11 000 km. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet-là et nous raconter dans quelle démarche tu l'as fait ? C'est un projet que tu as fait à plusieurs aussi ?
Oui, là en fait c'était à la base un projet entre amis avec deux amis Com et Romain où on s'était dit, on nous proposait de faire un tour d'Europe de 11 000 km en 23 jours et moi j'avais envie de découvrir un peu l'Europe, sortir de mon petit village de la Sarthe et donc voilà, mais on s'est dit qu'on voulait donner un sens à ce projet-là, pas juste faire un voyage entre amis, donc on voulait sensibiliser à la mucoviscidose et montrer que c'est pas parce qu'on est atteint d'une maladie qui est grave sur le papier qu'on ne peut pas vivre des rêves, qu'on ne peut pas voyager. Et donc, on avait tellement aimé cette émulsion autour de ce projet-là, les rencontres, que je m'étais dit et j'avais dit au gars, je savais que ma greffe allait arriver dans les années à venir, que je voulais absolument refaire un projet, je ne savais pas lequel, après ma greffe. Et donc, ça a conduit qu'après ma greffe, Romain, avec son grand frère Thibaut et un ami à lui, Jérémy, ils sont venus me chercher et ils m'ont dit, Alex, nous... ça fait 10 ans qu'on travaille dans notre entreprise, donc on a droit à prendre un an de congé sabbatique et on part faire un tour de l'Atlantique. Ça tente de venir avec nous. Moi, je n'avais jamais mis les pieds sur un bateau, mais sans réfléchir, j'ai dit bon, ouais, c'est parti. Hein. Moi, il n'y a pas de souci. Et donc là, on était reparti pour une super aventure, où, toujours pour sensibiliser à la mucoviscidose. Et là, aussi en faveur du don d'organes, parce que j'ai été greffé et montré que le don d'organes est un véritable don à la vie.
Donc entre ces deux défis, ta vie elle a basculé le 17 juillet 2017, puisque se présente à toi un très grand défi qui est cette greffe bipulmonaire. Combien de temps avant tu as su que tu pouvais être greffé ? Est-ce qu'on parle d'heures, de jours ?
Moi j'ai refusé, refusé. J'ai dit au médecin que je voulais pas être sur liste d'attente de greffe avant le mariage de ma sœur, parce que le mariage de ma sœur était début juin. Et je voulais absolument y être présent et qu'elle ne décale pas, parce que ma famille s'est toujours mise en retrait vis-à-vis de mes projets, et je suis souvent passé au premier plan, même dans les discussions à table ou autre, parce que j'ai une vie qui est peu banale. Et donc là, je voulais absolument pas accaparer l'attention, et je voulais que ça soit son moment, elle, avec son mari. Et donc, le lendemain de son mariage, j'ai appelé l'hôpital et je dis bon, c'est OK pour moi. Dans ma tête, c'est parti. Et donc là, on m'a inscrit sur liste de greffe, et j'ai eu la chance d'attendre très peu de temps pour avoir cet appel et me dire qu'il y avait un greffon qui était disponible pour moi. J'ai attendu seulement 30 jours.
D'accord. Et donc, tu as su combien de temps avant que tu avais...
On m'a appelé vers 21h chez moi, et je suis rentré au bloc opératoire vers 4h du matin.
D'accord. Ouais, donc, c'est vraiment dans l'instant.
Oui, il faut y être, parce que ces greffons-là, ils ont une durée de vie qui est limitée en dehors d'un corps humain. Donc, il fallait être absolument, pendant ces 30 jours-là, à 2 heures de l'hôpital, en voiture, et être disponible 24 heures sur 24.
Quelle a été ta réaction au moment où le téléphone a sonné et on t'a annoncé ça ? Est-ce que c'est beaucoup d'espoir ? Est-ce que c'est de l'appréhension, des doutes ? C'est un mélange de plein de choses ?
Ah, là, j'avais l'impression qu'il y avait 3-4 personnes dans ma tête, parce que c'était... de la joie, parce que cette attente, elle est enfin terminée. Mais en même temps, beaucoup d'appréhension, de peur, parce que je sais que ça va être le plus dur combat de ma vie qui va m'attendre, et où je ne peux pas décider de tout, en fait. Je ne suis pas seul maître à bord. C'était un mélange de tout ça, mais en même temps, un soulagement de pouvoir enfin y aller. Et vu que j'étais prêt dans ma tête... faut faire ce cheminement-là, de se dire faut y être prêt.
Et en parallèle, on peut dire que la situation commençait à devenir très problématique pour toi, parce que tu avais, je crois, 6% de capacité pulmonaire, c'est ça?
Oui,
à ce moment-là,
donc,
la situation devenait critique.
6%. Moi, c'était en juillet 2017. J'aurais certainement pas vu 2018 si j'avais pas reçu de greffe à ce moment-là. Donc mon pronostic vital à moyen terme était engagé.
La greffe des deux poumons, c'est la façon de le faire ? Est-ce qu'on peut imaginer le faire en deux fois, ou est-ce que ça n'a pas de sens ? C'est multiplier le risque par deux ?
Non, ça se fait tout le temps comme ça. On enlève les deux, et on en remet deux, sauf pour les personnes qui avaient déjà plus qu'un poumon, parce qu'on leur a enlevé des lobes petit à petit. Mais là, moi, j'avais encore mes deux poumons, et donc la pratique, c'est d'en remettre deux à la place.
Tu nous l'as dit, donc l'année qui a suivi, elle était aussi, elle est sensible. Enfin voilà, il y a l'intervention, mais il y a tout ce qui se passe après, et ce risque de rejet. Cette année, elle n'a pas été très simple. Tu as été, j'imagine, très suivi par ton équipe médicale, et notamment Antoine, qui a été ton chirurgien, dont on va reparler un peu plus tard, puisqu'il a participé à ta course épique. On peut dire que c'est une relation qui dépasse très largement le cadre médical.
C'est sûr que ce marathon-là qu'on a fait il y a une dizaine de jours, ça noue un lien qui est hyper particulier. Antoine, en fait, moi, je l'ai rencontré, c'était au moment de ma greffe, mais moi, je dormais, et lui, il me connaît plus que bien, vu que c'est lui qui m'a greffé. Mais pendant 4 ans, on s'est pas vu, en fait. Pendant 4 ans, on n'a eu aucun contact. Et c'est pour les besoins d'un reportage télé sur ma préparation du marathon qu'on m'a fait revoir Antoine. Et on a discuté, et deux mois après, il m'envoie un message, il m'appelle, et il me dit, Alex, j'ai dit à ma femme et mes enfants que je faisais le marathon avec toi. Donc j'étais le premier surpris, mais le premier heureux à voir que la personne qui m'a sauvé la vie voulait s'élancer avec moi sur ce marathon.
Suite donc à cette période de convalescence et cette année qui a suivi, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit « ça y est, je m'en sors, enfin voilà, ça y est, c'est derrière moi », est-ce que c'est quelque chose qu'on peut se dire ou pas ?
Oui, je pense qu'il faut avoir cette confiance-là, parce que c'est ça qui permet de ne pas être stressé tous les jours sur son souffle, sur lorsqu'on va au rendez-vous à l'hôpital pour des check-up. Toute la première année, chaque fois que j'allais à l'hôpital, j'avais cette appréhension-là de me dire, est-ce que mon corps, il fait le travail ? Parce qu'à chaque fois que j'ai fait un rejet, moi, je ne l'ai jamais senti physiquement. C'était seulement lors de biopsie où on me prélevait un bout de poumon, on me disait que j'étais en rejet, mais moi, physiquement, je ne le sentais pas. Donc, c'est un peu traître à se dire, je suis bien, mais on me dit que je suis en rejet. Donc, c'est bizarre de se dire ça et de se dire, je vais peut-être devoir être greffé si ça continue, alors que je marche correctement, je tousse pas, je fais tout normalement. Et cette crainte-là d'être en rejet, moi, elle a disparu depuis 2 ans et demi, où là, j'ai une confiance en mon corps qui est quasiment totale. Parce que lorsque j'ai mis les pieds sur ce bateau-là, j'avais encore l'appréhension lors du tour de l'Atlantique au début. Et à chaque fois, je voyais ma capacité respiratoire augmenter pendant un an. Et là, je me suis dit, je m'en suis sorti. Et voilà, et j'ai encore fait mon meilleur score, alors que ça fait 4 ans et demi que je suis greffé en capacité respiratoire à 2-3 semaines avant le marathon.
108%, c'est ça ?
108%. Donc voilà, c'est juste formidable et c'est ce qui m'encourage à me relancer encore dans des projets et continuer la pratique du sport très régulièrement.
Qu'est-ce que tu as à ce moment-là découvert ou redécouvert avec le plus de bonheur ? Est-ce que peut-être des choses qui n'étaient pas accessibles avant ? Est-ce qu'il y a un truc qui t'a émerveillé, peut-être une simple chose du quotidien, mais qui avait symboliquement beaucoup de valeur ?
Bah, à la fin, en fait, ma nièce et mon neveu sont un soutien énorme pour moi. Ils ne le savent pas parce qu'ils étaient tout petits lorsque j'étais vraiment pas bien. Et en fait, c'était de jouer avec ma nièce alors que j'étais sous oxygène. Et juste une partie de rigolade avec elle qui dure 30 secondes, bah, j'étais essoufflé, mais comme jamais, et que maintenant, je peux en profiter à 100%. Quoi.
Tous les défis que tu t'es lancé donc, depuis, notamment cette traversée, est-ce qu'ils doivent avoir une dimension sportive ou c'est pas la clé d'entrée indispensable ? Est-ce que ça pourrait être de tout ordre ? Et l'idée, c'est plutôt derrière de trouver un moyen de faire parler et de porter l'espoir ?
En tout cas, après le Tour de l'Atlantique, je recherchais un projet. Mais elle a un projet où la dimension sportive avait une part entière et jouait le premier rôle et où le dépassement de soi et où la connaissance de soi allait être primordiale. Parce qu'en fait, on me dit tout le temps, Alex, t'as un mental de feu, enfin, avec tout ce que t'as vécu, tu te plains jamais, ton mental, c'est ta première arme. Mais en fait, je voulais la mettre en pratique et voir si ce que je sais que j'ai un mental qui est fort, mais est-ce qu'il est si fort que ça ? Et donc, c'est pour ça que je voulais avoir une course où j'allais pas faire 5-10 km et où ça allait pas durer longtemps. Et donc, c'est pour ça que je voulais m'engager sur une épreuve, on va dire, reine. Donc, j'ai regardé le Half Marathon des Sables, j'ai regardé des courses comme ça.
Je me suis inscrit hier au Half Marathon des Sables, c'est drôle que t'en parles.
Et bah,
j'ai pas résisté.
Et bah, ça me titille. C'est quelque chose qui me fait rêver d'entendre les autres en parler et de voir l'épreuve. Donc,
mais le marathon s'est imposé aussi déjà comme première étape.
Comme une première étape. Et bah, c'était. Je me lance pas en fait des projets pour refaire un projet parce que bah, du coup, à chaque fois, tout le monde me dit c'est quoi ton nouveau projet, ton nouveau projet. Je veux que chaque projet ait un sens et soit construit et pas me dire je me lance dans un projet coûte que coûte. Et donc là, j'ai regardé le calendrier des courses. Et cette année, le marathon de Paris tombait en octobre, 17 octobre. Et là, je fais mais attends, Alex, tu connais cette date ? 17 octobre, c'est aussi la journée mondiale du don d'organes et de la greffe. Donc voilà. Tout était aligné, il n'y avait pas d'autre course en fait. À partir du moment où j'ai vu cette date, eh ben, j'ai dit à mes coachs, c'est ça. Enfin, il n'y a pas autre chose quoi.
Juste avant ça, un autre défi, un peu différent, qui a dû te mobiliser quand même pendant un certain nombre de semaines et de mois précédents, c'est en septembre 2021, la sortie de ton livre, Un souffle d'espoir, qui retrace ton parcours de vie, un livre qui a été préfacé par Brigitte Macron. Est-ce que ça a été un exercice plaisant pour toi ?
Ça a été un exercice
j'imagine.
Plaisant, mais avec le recul. Parce que quand j'avais la tête dedans, je l'ai écrit en 4 mois, ce livre. Donc en fait, mon éditeur est venu me chercher en décembre, janvier là, de cette année et m'a dit « Alex, on a vu ton parcours et on aimerait que tu sensibilises les gens, mais d'une autre manière que tes aventures, et le sensibiliser par écrit. » Et je me suis dit, ouais, là, j'ai le temps cette année. Après, ça va devenir trop compliqué. Donc, j'ai dit, OK, pour me lancer dans cette aventure. Ça a été une aventure assez folle. Ça m'a appris beaucoup sur moi. Je suis repassé par des moments que je pensais avoir enfoui ou avoir fait le deuil. Et au fin de compte, je me suis dit, peut-être que j'avais pas fait tant le deuil que ça de certaines choses ou de certains moments. Mais ce parallèle entre écrire un livre et ce marathon, bah, j'ai appris tellement sur moi des deux côtés et j'en ressors avec une connaissance de moi qui est folle. Et en fait, je ne pensais pas que ces deux aventures totalement différentes allaient autant m'apporter.
Merci beaucoup pour cette longue introduction, Alexandre, mais ça valait vraiment le coup de prendre le temps. On va passer à notre séquence de la basket chinoise. C'est notre format de portrait chinois, version sportive. Première question de cette basket chinoise, si tu étais un personnage fictif, qui serais-tu ?
Alors, je serais Spider-Man parce que on a un peu un parallèle. Moi, j'ai perdu ma maman quand j'étais jeune, à l'âge de 13 ans. Donc lui, dans son quotidien, il perd aussi ses parents. Et en même temps, moi, on me qualifie souvent d'extraterrestre, d'extraordinaire, mais alors que je suis quelqu'un de totalement ordinaire, et c'est ce que je montre sur le papier, c'est que j'ai pas du tout cette casquette-là. Je suis né avec la mycoïdose, je suis greffé des poumons. La pratique sportive n'était pas forcément quelque chose de voué à moi. Et pourtant, je m'en suis donné les moyens d'aller dans des projets qui sont peut-être extraordinaires. Et c'est quand même lui, il a une vie totalement banale à la base. Et il en sort avec quelque chose où ce pouvoir lui permet d'être extraordinaire. Et en fait, il y a ces deux facettes-là qui cohabitent en lui. Et je pense que j'ai ces deux facettes-là aussi à me dire que je suis quelqu'un de totalement ordinaire. Mais pourtant, je fais des trucs qui peuvent être extraordinaires.
Halloween, c'est dans 3 jours, donc je pense que tu as ton idée de déguisement.
C'est ça.
Deuxième question de cette basket chinoise, si tu étais un animal, lequel serait-il et pourquoi ?
Je serais le lion, en plus c'est mon signe astrologique par ce tempérament de combattant que j'ai dû avoir par la force des choses avec ma maladie, mais qui me caractérise bien. Et en même temps, cette envie de liberté qui le caractérise aussi, et cette liberté dans mes projets de ne pas rester cantonné qu'à une seule type d'aventure. J'ai fait sur la route avec Mercy, j'ai fait en bateau avec un voilier, là c'est la course à pied donc avec mes jambes, et en fait j'aime découvrir et donc c'est cette capacité de liberté là à faire ce que je souhaite et à faire ce que je veux.
Dernière question, est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui est une source d'inspiration particulière pour toi ?
Oui, j'ai eu la chance de la rencontrer cette année, c'est Alice Modolo, la championne d'apnée avec qui j'ai eu la chance de faire une initiation avant mon marathon et ça m'a grandement servi pour le marathon parce que c'est le seul sport où on va flirter avec où on se prive de capacité vitale et de capacité respiratoire, et c'est leur discipline, c'est leur sport, et elle a mis en pratique ce sport, elle a totalement changé de vie, elle s'y est mise très tard et elle s'y consacre maintenant à 100%, mais
avec brio.
Avec brio, parce que maintenant, elle a le record du monde. Et c'est la première française à avoir atteint les moins 100 mètres. Donc, ça fait quand même un petit bout à descendre. Et elle a exploré ce côté mental qui, moi, me fascine et qui m'a apporté beaucoup avec elle sur le marathon.
Oui, on va en parler un peu après sur la partie visualisation, qui est un sujet qui m'intrigue et qui me fascine. Merci beaucoup, Alexandre, pour cette basket chinoise. On va plonger désormais maintenant dans ta course épique, le marathon de Paris. Quelques mots introductifs pour en planter le décor. La première édition officielle du Marathon de Paris, elle s'est tenue en 1976. Les 42,195 km de la course étaient alors effectués exclusivement dans le Bois de Boulogne. Il n'y avait qu'une centaine, je crois, une grosse centaine de participants à l'époque. Le Marathon de Paris est devenu depuis l'un des plus grands et importants marathons du monde, caractérisé notamment par l'importance de son peloton. En effet, habituellement, année pas Covid, près de 145 nationalités et 60 000 coureurs viennent vivre chaque année ces 42,195 km de la plus mythique épreuve que propose l'athlétisme et qu'est le marathon. Le Marathon de Paris revêt aussi une dimension internationale particulièrement importante, avec chaque année 23 000 coureurs étrangers qui sont présents sur la ligne de départ, soit quasiment 40% du peloton, donc c'est énorme et c'est génial. Le défi personnel, donc propre à tout marathon, s'y conjugue avec une balade dans la ville lumière, conduisant les sportifs et les coureuses et les coureurs à battre le bitume sur les artères et à proximité des plus prestigieux monuments de la capitale, avant un final avenue Foch si tout se passe comme prévu. Un parcours qui n'est pas toujours de tout repos, notamment avec un enchaînement de tunnels redoutés et redoutables sur les quais de Seine, ou encore une côte petite mais costaud à l'approche du Bois de Boulogne au kilomètre 34. Un exercice particulièrement délicat alors que les participants se sortent à cet instant tout juste du fameux mur traditionnellement rencontré aux environs du kilomètre 30. Au final, ce prestigieux parcours amène les participants à traverser 7 arrondissements de Paris, à se mettre au vert lors des passages dans les deux célèbres bois de la capitale, tout cela avec la plus belle source de motivation qui soit, les encouragements des 250 000 spectateurs présents tout au long du parcours. Voilà en quelques mots le cadre de ta course épique qui va nous intéresser aujourd'hui, Alexandre. Avant que tu nous en partages plus en détail le récit, place à notre rubrique la question qui pique de course épique. Ça va, pas trop nerveux ?
Ça va, ça se passe bien.
Cette question qui pique concerne aujourd'hui, à la surprise générale, j'imagine, le marathon. C'est à moitié étonnant, mais cette question qui pique, je ne l'ai jamais posée dans le podcast alors qu'elle semble assez évidente. Voilà ma question pour toi, Alexandre. Est-ce que tu saurais me donner la raison pour laquelle la distance d'un marathon est de 42,195 km ? Et attention, il y a un petit piège.
Ah oui, et donc du coup, j'ai entendu cette réponse-là au moment du marathon. C'est mon petit frère qui me l'a raconté. Ça faisait 42 km, mais on a rajouté ces mètres-là pour que ça aille jusque devant le balcon de l'arène, non ?
Bravo, c'est quasiment ça, c'est le roi, mais effectivement, la distance originelle, c'était 40 km, donc c'est souvent, en tout cas, moi, c'est l'idée que j'avais en tête et l'histoire de ce soldat qui a couru pendant 40 km jusqu'à Athènes pour prévenir que, voilà, qu'il y avait la victoire des Perses. Et cette personne, ce porteur de message est mort épuisé après l'avoir délivré. Donc la distance originelle du marathon était effectivement de 40 km. Et c'est en 1908 que cette longueur a été rallongée jusqu'à 42 km et quelques centaines de mètres lors des JO de Londres. Et tout ça, c'est en fait le roi de l'époque, donc c'était pas une reine, c'était Édouard VII, qui a fait un petit caprice et qui a exigé que la course se termine au pied de sa loge royale. Voilà, il n'avait pas envie de se déplacer sur la ligne d'arrivée pour remettre les médailles. Et donc ça a allongé d'autant le marathon. Et en fait, cette distance, elle est restée depuis. Et elle est devenue officiellement la distance du marathon au JO de Paris en 1924. Tu vois, il y a bientôt 100 ans, presque. Bravo, tu n'as pas connu le fameux mur avec cette question et tu t'en es sorti très très bien. Alors, on va parler maintenant de ta course épique et du marathon de Paris. Est-ce que tu peux, avant ça, nous raconter un peu ton rapport plus spécifique à la course à pied ? Est-ce que tu voyais, donc déjà, tu nous disais que tu étais très intéressé par le sport de manière générale dans ton enfance. Est-ce que l'athlétisme en particulier, c'était une source d'intérêt pour toi ? Et les formats d'endurance, plus particulièrement les formats longs ?
Non, c'était pas un intérêt pour moi parce qu'en fait, je détestais ça parce que j'avais pas la capacité de suivre mes amis et la fameuse épreuve du 3x500 lorsqu'on est au lycée pour l'épreuve du bac. Je détestais et pourtant voilà, j'ai couru 42 km cette année, mais sur le tard. Mais en fait, c'est devenu... moi, je faisais du foot et en fait, je n'aimais pas courir pour courir. J'avais besoin de retrouver ce côté-là de plaisir, de jouer, le côté amusement dans le sport. Mais en fait, c'est ingrat comme discipline parce que les premiers mois sont tellement durs à s'y mettre qu'on se dit, mais on va jamais pouvoir courir plus de 5 km. Comment ils font pour courir aussi longtemps ? Et en fait, au début de mon entraînement, je me suis astreint à courir que des 5 km pour prendre que du plaisir. Et pendant 3 mois, j'ai couru que des 5 km dans ma préparation. Et à un moment donné, je sais pas, il y a eu le déclic dans ma tête et je suis passé sur du 10. Et pareil, à un moment donné, je me suis dit, au 10, mais non, je vais jamais pouvoir courir 42. Et un soir, j'ai eu un déclic, je me suis fait un semi-marathon tout seul à l'entraînement. Et voilà, je pense que c'est des déclics à un moment donné à se dire, au fin de compte, on est capable. On est capable et moi, je suis passé du 21 au 42 en une fois. Donc, comme quoi, on est tous capables.
Je saute un peu dans le temps, mais est-ce que ça veut dire que... Enfin, quelle place peut trouver la course à pied aujourd'hui, maintenant que ce défi est derrière toi ? Est-ce que dans ton quotidien, là, je pourrais te croiser demain en train de courir ou c'est un chapitre que tu mets un peu à part, là, pour quelques temps et puis tu t'y remettras peut-être ou pas ?
Alors, demain, c'est sûr que tu vas pas me croiser à courir parce que j'ai encore mal aux jambes du marathon. Il faut régler encore quelques petites blessures. Mais non, je vais reprendre, je pense... Je vais essayer au mois de décembre ou alors ça sera en tout début d'année parce que il y a d'autres projets sportifs. Deux courses à pied et cette dimension trail que j'ai envie d'aller découvrir. Donc non, ça va rester dans ma vie.
Donc tu nous as expliqué le contexte et comment, c'est une question que je pose habituellement sur comprendre comment s'est présenté à toi l'opportunité. Et puis effectivement, il se trouvait que ça tombait sur la journée internationale du don d'organes, donc tout était parfaitement calibré. Est-ce que toi, tu avais déjà eu l'occasion de te frotter à une course à pied en compétition ou est-ce que ta compète d'ouverture, c'est un marathon tout simplement ?
Ma compète d'ouverture, c'est un marathon. Mon semi-marathon que j'avais fait à l'entraînement, c'était moi tout seul avec mon beau-frère. Et non, les seules compétitions, c'était les fameux cross, mais quand on était vraiment enfant. Et donc, ça date d'il y a plusieurs dizaines d'années. Mais non, ma première compétition officielle, c'était le marathon de Paris.
Une des composantes clés de la préparation, au-delà de la dimension physique, c'est évidemment l'aspect mental. Tu as commencé à nous en parler tout à l'heure. Tu étais très bien entouré pour l'occasion, puisque tu as la chance de travailler avec la championne d'apnée, donc Alice Modolo. Donc, elle a battu cet été le record mondial en poids constant bipalme. Je ne sais pas ce que c'est. Enfin, j'ai vu des photos, donc je vois à peu près le principe du bipalme. Avec une plongée à 95 mètres de profondeur. Je sais qu'elle a aussi des records, je pense, dans d'autres catégories, en tout cas d'autres façons de descendre à 100 mètres, comme tu l'évoquais tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous expliquer votre travail ensemble? Et puis, moi, je suis très novice sur la visualisation. C'est une notion que j'entends beaucoup et que je maîtrise pas du tout. Tu vois, j'ai une question aussi simple que est-ce que c'est vraiment imaginer très concrètement avoir une image mentale précise d'un instant? Est-ce que c'est plus un truc de sensation plus globale ou est-ce que vraiment c'est très tangibilisé autant que possible cette projection-là?
Ben moi, je m'y suis mis que cette année et je suis encore novice parce que à la base, je suis quelqu'un de très terre à terre, enfin où j'ai besoin d'explications scientifiques à ce que je fais et qu'on me le prouve. Et en fait, je suis aussi accompagné par deux coachs tout au long de l'année de Pilates et de course à pied et qui m'ont parlé aussi de cette visualisation. Et Alice m'a donné cette dimension-là où en apnée, elle, à exploiter au maximum l'aspect mental et pas l'aspect physique de sa discipline. Elle va vouloir s'y mettre, à vraiment exploiter aussi l'aspect physique pour descendre encore plus loin. Mais elle, c'est des verrous mentaux. Et lors de cette initiation au mois d'août cette année, on a noué un lien parce qu'elle est aussi ambassadrice de l'asso Grégory Lemarchal. Et c'était beaucoup de visualisation, de travail de respiration. Et à ce retour-là de cette initiation, je me suis blessé à un genou. J'ai eu une tendinite à 6 semaines du marathon. Et là, je me suis dit, comment je vais faire? J'arrive même pas à poser le pied par terre, à le plier. Là, je vais devoir faire 42 km. Et donc là, ma préparation s'est totalement stoppée. Et je me suis dit, waouh, je fais comment? Parce que dans 6 semaines... Et donc là, ça a été, elle m'a dit, bah Alex, tu peux pas courir. Voilà, c'est sûr, tu peux pas courir là. Donc maintenant, travaille, mets ce temps à profit pour autre chose et fais de la visualisation. Visualise que cette course va être dure parce que ce genou-là, il va pas te laisser tranquille. Il aura pas le temps de revenir à son maximum pour le marathon. Et donc, j'ai couru que 15 km de course à pied en 6 semaines avant le marathon, alors que là, il y en avait 42 qui m'attendaient en une journée. Donc, je savais que ça allait être dur, mais par contre, j'avais préparé ma course et je m'étais dit, je voulais pas que ça soit que de la souffrance. Je voulais pas faire passer mon message sur le don d'organes, comme quoi c'était un don à la vie, en arrivant et en m'écroulant par terre sur la ligne d'arrivée. Je voulais que ça soit montré que voilà, j'étais fier de franchir cette ligne et que ça allait le faire. Mais donc, je devais visualiser beaucoup de plaisir et donc c'est ce que j'ai visualisé. Je me suis dit, Alex, prends du plaisir sur le premier semi. Visualise que ça sera du plaisir. Répète-toi que ça
sera
du plaisir.
Et donc là, tu vois une image de toi, Alexandre, en train de sourire, d'être heureux. Enfin, c'est ça concrètement.
Partager, parce que il y avait 6 personnes qui couraient avec moi. C'était partager ces moments-là ensemble. C'était découvrir, parce que moi, je vais très peu, en tout cas, faire du tourisme à Paris. C'est que pour le travail. Donc, c'était regarder autour de soi, prendre l'ambiance de la foule, prendre ces moments. Et je me le répétais, même quand j'étais en train de courir, hein, je le disais au fort, plaisir, plaisir, plaisir. L'air de dire, martèle-toi ça dans ton cerveau et il n'y a aucun signe de douleur. Plaisir, plaisir, plaisir.
Qu'est-ce que tu t'attends à vivre avec ce marathon de Paris? Est-ce que c'est un espèce de triptyque ou tu le vis pour toi? Enfin, un peu comme tu l'expliquais tout à l'heure sur tes projets. Pour toi, il y a aussi peut-être la dimension du donneur qui, je pense, a été aussi assez présent. Et puis, évidemment, pour les autres et pour ce message d'espoir que tu veux porter, c'est un peu ça les 3 composantes de ce défi que tu te lances.
Moi, c'est dans mon livre, je m'adresse à mon donneur sur une lettre où je vis pour deux, le titre. Et là, ce marathon, ça peut être, mais enfin, en tout cas, moi, je me dis que c'est fou parce que c'est juste de la course à pied et ça m'a rapproché intimement de cette personne. J'y ai jamais autant pensé que quand, dans ma préparation marathon. Et donc, je courais pour moi, je courais pour cette personne. Je courais aussi pour sa famille qui l'a perdue. Mais je cours pour cette personne qui n'a certainement pas eu la vie qu'elle aurait rêvée et les projets qu'elle aurait voulu faire. Donc, je me dois, pour moi, en fait, si on est greffé, on ne doit pas se mettre dans une bulle et rester dans son canapé pour que tout se passe bien. Pour moi, c'est une sorte de responsabilité et un respect pour cette personne que de vivre pleinement. Et donc, courir ce marathon, forcément, ça m'a rapproché d'elle.
On l'a compris, les projets dans lesquels tu te lances, ils sont pas individuels, ils ont vocation à être partagés. Est-ce que tu peux nous parler de l'équipe qui t'entoure sur ce marathon de Paris? Donc, il y a Antoine, on l'a compris, mais vous étiez 6.
C'est ça, il y a du coup Antoine, le chirurgien, qui est devenu, on va dire, un ami chirurgien maintenant. Il y avait mon beau-frère Romain, qui je connais depuis très longtemps. Et en fait, c'est plus qu'un beau-frère. Pour moi, c'est mon frère, c'est ma famille. Il m'a soutenu énormément au moment de ma greffe et il a toujours été là avec ma sœur. Il y avait mon coach qui m'a remis à la course à pied après la greffe. Donc, il faut savoir que la première fois que j'ai couru avec lui, j'ai tenu 13 minutes. Et 13 minutes, j'ai été au bout du bout. Et donc là, m'attendait 42 km. Donc, il y avait un petit chemin à faire. Mais comme quoi, si moi, je l'ai fait, on est tous en capacité de le faire. Et il y avait 2 autres amis, à mon beau-frère et ma sœur, qui étaient là. Et en fait, quand je leur ai dit que je m'élançais sur le marathon, ils m'ont dit... On voulait faire un marathon dans notre vie, mais en fait, là, on veut partager cette expérience avec toi. Et on est partis tous ensemble et on voulait arriver tous ensemble.
Est-ce que tu as des consignes particulières de ton entourage médical, des points d'attention, ou est-ce que tu as les mêmes consignes de bon sens que pour n'importe quel autre coureur?
Non, c'était que les mêmes signes que pour un autre coureur. Et en fait, même eux, ils apprennent un peu avec moi parce que... le Tour de l'Atlantique, sur le papier, c'était le projet le plus dangereux, le plus fou. Quand j'étais en plein milieu de l'Atlantique, je ne pouvais pas recevoir d'assistance médicale. Là, j'avais bien les pieds sur terre. Et le Tour de l'Atlantique m'a permis de prendre 20% de capacité respiratoire. La pratique du sport est plus que conseillée, que ce soit dans toutes les pathologies, donc pareil pour la greffe. Et donc là, de me mettre au marathon, j'ai aussi encore pris 8% de capacité respiratoire avec l'entraînement. Donc en fait, tous les feux étaient au vert et tant mieux.
Est-ce que tu t'étais fixé un objectif en termes de chrono, ne serait-ce que pour avoir une idée un peu de rythme ou peut-être de pas excéder la barrière horaire, ou est-ce qu'il y avait juste le seul objectif, c'était la ligne d'arrivée et puis c'était déjà un objectif très largement suffisant pour un premier marathon?
Non, l'objectif, selon mon allure et selon l'entraînement, j'étais en capacité de le faire en 4h30. Et là, d'un seul coup, la blessure est arrivée. Et où là, en fait, j'ai totalement changé d'idée. C'était juste d'arriver sur la ligne d'arrivée. Parce que cette tendinite-là, j'arrivais même pas à marcher correctement, donc courir 42 km. Et ça revenait pas, je faisais des soins, ça revenait. Enfin, j'avais mal. Et donc, je suis moi-même surpris d'avoir pris du plaisir sur les 21 premiers kilomètres, donc tant mieux. Du coup, là, l'objectif, c'était terminé. Et je savais que, par contre, j'allais être sous la barre des 6 heures sous lesquelles on doit terminer.
Comment s'est passée la soirée et la nuit qui précède le départ? C'est toujours des moments un peu particuliers, par la force des choses, avant des grandes échéances comme celle-là. C'est souvent difficile de trouver le sommeil, il y a une part d'excitation, de crainte. Est-ce que ça a été le cas pour toi ou est-ce que tu étais assez serein finalement?
J'ai été très agréablement surpris. J'ai bien dormi la nuit du marathon. Je ne sais pas pourquoi. Je pensais que j'allais très mal dormir. En fin de compte, j'ai fait une bonne nuit. Visiblement, je devais être pas trop stressé. Mais c'est parce que aussi, en fait, vu que j'ai médiatisé mon projet, j'étais très fortement sollicité par les médias pour en parler et véhiculer le message. Donc, quand je me suis réveillé, j'étais bien, j'avais bien dormi et j'étais focus sur mon objectif de ce marathon-là.
J'allais t'en parler justement, cette exposition médiatique qui était déjà très importante en amont de la course. Est-ce que c'est une forme de pression supplémentaire ou tu arrives à cloisonner, à rester assez hermétique à cette pression-là?
Mon coach avait très peur de ça, que ça devienne un poids trop trop fort pour moi. Et au fin de compte, moi, c'est un véritable moteur. Bien sûr que ça me rajoute peut-être une certaine pression, mais pour moi, c'est un moteur, ça me donne encore plus de force parce que de l'annoncer publiquement, après, il faut assumer. Et par contre, j'assume le fait de dire que je voulais être absolument sur la ligne d'arrivée et que j'y serais parce que j'y croyais dur comme fer. Moi, j'en fais un véritable moteur. Et dans les moments difficiles sur la course, je savais que ces journalistes-là m'attendaient sur la ligne d'arrivée pour montrer que le don d'organes est un véritable don à la vie. Donc pour moi, non, je m'en suis servi comme un moteur, mais par contre, il faut faire attention parce que ça peut demander beaucoup d'énergie, ça m'en a demandé. Et peut-être que ma blessure, ça vient aussi de là, c'est le fait que j'étais très sollicité pour que ce soit le livre, que le projet marathon. Et donc j'avais cette fatigue-là et je pense un peu de surentraînement à un moment donné parce que je voulais me rassurer. Et donc faut y faire attention et je ferai peut-être un peu plus attention à ça, à la gestion du temps et du planning pour les futurs projets, les futures courses.
Est-ce qu'il y a une chose que tu appréhendes en particulier pour cette course? Le mur, exposer ton corps à un effort aussi long pour la première fois?
Eh bien justement, je pense que je ne l'ai pas assez visualisé ce mur. En fait, je me disais, s'il est là, il est là, s'il n'est pas là, il n'est pas là. Et en fait, j'aurais dû plus m'y préparer parce que moi, je me le suis pris... très fort ce mur, donc j'aurais dû plus le préparer en visualisation parce que de toute façon je pouvais le préparer que de cette manière-là. Mais en fait, j'ai eu l'impression, en fait, j'en faisais abstraction. Je me disais, il est là, je verrai ce qui se passera, alors que j'aurais dû m'y préparer.
Ça y est, nous sommes le dimanche 17 octobre 2021, on est à quelques minutes du départ. Quel est ton état d'esprit sur la ligne de départ? Enfin, je dis ton, mais vous, parce que vous êtes tous les six ensemble, est-ce que vous êtes stressé, vous êtes impatient, vous êtes serein? Comment tu vis ces derniers instants avant de te lancer dans la course?
En fait, moi, je suis dans une forme d'excitation, donc je suis serein. Je crois que je ne me rends pas trop compte que je pars pour 42 km à travers Paris, alors que mes proches et mon coach autour de moi, ils sont beaucoup plus tendus, ils ont beaucoup plus d'appréhension. Mais moi, je ne sais pas, en fait, là, c'est vraiment que du plaisir d'être là et de me dire « c'est parti, c'est un nouveau projet et je vais le vivre ». Mais en même temps, je réalise pas trop dans quoi je me suis embarqué, quoi.
Est-ce que tu peux nous parler des 15 premiers kilomètres? Donc, tu arrives à t'en tenir à cette notion de plaisir que tu avais visualisé. Tu as une course que tu gères à ta main sur cette première heure, grosse heure et demie de course, on va dire.
Oui, là, c'est vraiment que du plaisir. On va dire que les médias m'ont lâché, je suis dans ma course. En même temps, sur cette première partie du parcours, il y a énormément de monde qui nous encourage sur le côté.
Ça te porte, ça?
Oui, ça porte, parce qu'en plus, en fait, il y a beaucoup de gens qui me reconnaissent du fait des différents reportages, donc ils m'encouragent, ils me disent merci. Ça peut paraître bizarre de me dire merci alors que c'est moi qui cours, mais ça me fait énormément de bien, ça me fait chaud au cœur et ça me donne beaucoup de motivation. Le premier ravitaillement, je bois, je mange un peu, enfin, pour préparer pour la suite, tout se passe correctement. C'est vraiment que du plaisir ces 15 premiers kilomètres.
Sauf qu'au 15e kilomètre, il y a une petite alerte.
Oui, la première petite alerte, parce qu'il y a une... Il n'y a pas une grosse montée, mais il y a une légère montée quand on va vers le bois de Vincennes, là. Et là, je sens que le genou, d'un seul coup, se met à tirer. Je me dis, oh, je t'avais dit jusqu'au 21 à tenir. Je ne t'avais pas dit d'arrêter au 15e. Mais déjà, je suis très surpris de ne pas avoir mal au genou, en fait, avant. Et de me dire que sur le plat, voilà, ça déroule. Mon allure est un peu plus lente qu'à l'entraînement, mais tant mieux, je préfère partir tranquille, ça va bien se passer. Mais là, le genou commence à tirer et même mes proches le voient un peu, je me crispe un peu plus au niveau du visage, je me renferme un peu sur moi, je parle beaucoup moins, je fais beaucoup moins de blagues. Et une fois passé ce léger faux plat montant, c'est reparti, le genou me laisse tranquille et je suis reparti pour quelques kilomètres.
Donc tu boucles ton premier semi très sereinement et dans un état de relative fraîcheur, en tout cas, c'est ce que tu nous as raconté. Et puisque tes proches qui sont au niveau du semi d'ailleurs constatent aussi en te voyant arriver, les choses elles commencent à se corser assez rapidement après. En fait, on dit que le mur c'est ça habituellement aux environs du kilomètre 30. Et toi, je sais pas si c'est le mur, si c'est un petit muret.
Ça
arrive un peu plus tôt.
C'est un gros mur. je pense que ma tête, je lui avais tellement dit plaisir sur les 21 premiers qu'elle s'est mis ça dans la tête. Et après, je m'étais dit, si c'est de la souffrance sur les 21 prochains, c'est pas grave, t'auras fait 21 km de plaisir et t'auras pris sur la moitié de la course du plaisir. Mais par contre, c'est au 23e où moi, le mur, il n'était pas au 30e, il était dès le 23e et là, j'ai explosé.
Avant la série de tunnels, c'est ça?
Et en plus, on arrive sur le parcours où c'est le plus difficile. On m'avait prévenu en amont que c'était là que ça allait être difficile avec ce fameux tunnel qui dure je sais pas combien de mètres et les quais de Seine où... montée, descente. Et donc là, c'est même difficile pour moi de récupérer et de me mettre sur un rythme plus tranquille parce qu'en fait, les montées, elles sont trop difficiles. Et il y en a 5 ou 6, je crois. Enfin, si je me rappelle bien, il y en a 5 ou 6.
Il y en a beaucoup, ouais. Il y en a trop.
Il y en a trop.
Pour l'avoir fait aussi.
Et en plus, je trouve qu'il y a moins d'encouragement, en fait. Ou peut-être que moi, parce que je me mets dans une bulle, je les entends moins... la tour Eiffel est sur notre gauche, mais la tour Eiffel, j'en profite, je regarde même pas.
T'es dans le dur.
Ouais, je suis dans le dur. Et le 23e, c'est là. Et justement, il y a un ravitaillement qui est qui doit être vers le 27-28, il me semble. Et où là, mes proches me voient et là se disent ouais, ok. Là il est passé dans un autre mode parce que entre le 21 en 5 km son visage n'est plus du tout le même. Au ravitaillement j'ai besoin de manger, j'ai besoin de boire, et pourtant tout le monde m'encourage autour, il y a les médias, il y a ma famille, mais je suis plus du tout dans ce mode sourire serein, je suis passé dans un autre mode.
À quoi tu t'accroches à ce moment-là? Tu vas chercher quoi comme ressource?
En fait, je me dis que j'ai pris du plaisir sur les 21 premiers, que je vais forcément le terminer parce que sur la barrière horaire, ça sera bon. Mais d'un côté, je me dis, ouais, il reste plus de 15 km, quoi. 15 km, c'est encore long. Donc, si c'est 15 km de souffrance, et en fait, j'ai même pas envie de regarder combien de kilomètres il me reste parce que c'est trop long. Et en même temps, ce que je m'accroche, c'est la personne qui m'a fait don de ses poumons, c'est ma maman, c'est mes proches qui sont là autour de moi, c'est de voir les médias, c'est Antoine, mon chirurgien. En fait, c'est toute cette force-là, c'est mon premier projet solo parce que là, je suis le seul à pouvoir me véhiculer avec mes jambes comparé aux autres où on était plusieurs, on était en équipage. Mais il y a une force collective qui est autour de moi et qui me pousse.
Ce moment délicat, il va un peu s'étendre dans le temps malheureusement puisque ça va être jusqu'au 35e kilomètre. Donc sur une partie aussi où il commence à y avoir un peu moins de monde sur le parcours. tu continues à être dans ça, à serrer les dents dans cette période-là de souffrance qui s'étire donc pendant un peu plus d'une heure, une heure et demie.
Oui, c'est ça. C'est de se dire, normalement, allez, le 10 km, je le cours en 1h05, 1h10 sur l'allure marathon. Là, je vais mettre quasiment 1h30, 1h45. Donc, en fait, même quand ça fait mal, du coup, on prend plus de temps. Donc, la souffrance dure plus longtemps. Et en plus, là, on termine les quais de Seine. Je me dis, bon, ça reroule, mon allure se remet bien. Et là, il y a la fameuse côte juste avant le bois de Boulogne où, là, quand je la vois, qu'on est au pied, alors que j'avais réussi à reprendre un petit rythme, et ça se voit sur mes chronos, et là, j'ai pourquoi elle est là, elle?
Est-ce que tu commences à t'inquiéter pour le temps? C'était pas un sujet, la barrière horaire, mais là, est-ce que tu commences à te dire qu'il y a un risque de fort délai?
Non, sur le délai, ça me...
Ça vient pas mettre de pression additionnelle?
Enfin,
tu l'envisages pas?
Je l'envisage pas, et puis bah, au pire, j'aurais été hors délai, mais je serais arrivé. Mais ça m'aurait fait un peu mal, parce que déjà, rien que mon temps me fait mal de le dire maintenant, parce que du fait de cette blessure, et c'est pour ça que j'ai envie d'y retourner, quoi.
C'est une annonce officielle. Tu reprends un peu d'allant, malgré tout, entre le kilomètre 35 et 40, c'est évidemment pas une partie de plaisir à ce moment-là du marathon, pour personne d'ailleurs. Comment se passe cette section-là, avant les deux derniers kilomètres, où la dynamique va être un peu différente?
Bah là, c'est prendre kilomètre par kilomètre. Mon coach se met devant moi, il fait un peu le lièvre. Mais c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, Alex, je t'ai jamais vu comme ça. Tes yeux, t'étais... J'avais l'impression que t'étais dans ta bulle, t'étais... On savait que t'étais en mode souffrance et ça se voyait, mais on connaissait ton mental. Mais ils ont eu peur que je lâche. Hein. Enfin, pas forcément eu peur, mais parce qu'ils me connaissent quand même. Mais ils se sont dit, ça fait déjà 15 km qu'il est dans la souffrance, est-ce qu'il va tenir? Mais là, je prenais kilomètre par kilomètre. Et par contre, j'ai jamais vu les kilomètres passer aussi lentement, quoi.
Ouais, c'est un passage qui est un peu dur de toute façon dans le marathon. Cette partie-là où il y a beaucoup moins de monde, c'est vraiment la partie où et tu pioches physiquement et en plus,
les kilomètres sont longs. Et en fait, aussi, on se dit, ouais, il y a beaucoup moins de monde autour de moi, même qui court. Je dois être loin dans les gens, je dois être loin. Mais il faut prendre kilomètre, puis un kilomètre c'est une victoire, et par contre on se dit qu'on est vraiment arrivé, c'est même, enfin moi je me suis dit c'est bon, c'est terminé, que quand on était au 38e quoi, mais avant c'était, je me disais pas que j'étais arrivé.
Donc là tu perds un shift et une bascule, tu rentres un peu dans une nouvelle dynamique, est-ce que tu arrives à presque, j'allais dire, profiter de ces 2, 3, 4 derniers kilomètres, est-ce que t'étais... Là, tu touches à ton objectif et tu comprends que tu vas le réaliser. Et puis, ça devient très concret, cette ligne d'arrivée, t'as à portée de basket d'elle. Est-ce que ça t'aide à gérer un peu différemment?
Du 38 au 40, j'essayais de visualiser mon arrivée, d'être sur ce tapis vert et de franchir cette ligne et me dire « Ouais, c'est fait ». Mais ça restait encore une période compliquée, le 38-40. Et c'est au 40e où là, je me suis dit Alex, maintenant, reprends du plaisir. Reprends du plaisir, la profite, regarde tes proches autour de toi. Vous êtes partis tous ensemble et vous allez arriver tous ensemble. Il y a plein de monde qui t'attend sur la ligne. Tu vas montrer que le don d'organes, ça sauve des vies. Tu vas pouvoir délivrer ce message d'espoir à toutes les personnes qui t'ont encouragé depuis des semaines. Et donc là, je me suis dit, mais prends du plaisir.
Le moment tant attendu de la dernière ligne droite arrive enfin. Elle aura presque un goût de trop peu. T'étais presque partant pour faire 1 ou 2 kilomètres de plus, non? Peut-être pas, je sais pas. Est-ce que t'aurais pu encore continuer un tout petit peu, ou est-ce que c'était vraiment un soulagement quand même que cette course, enfin que cette ligne d'arrivée arrive et que même si toi tu commençais à te sentir un peu mieux.
C'est un soulagement de l'avoir arrivé, mais là quand on tourne, je me souviens sur la gauche pour aller vers la ligne d'arrivée. Bah franchement, en fait, elle est là. Et c'est au moment où on retrouve toutes les personnes, j'ai la chance que le speaker il m'annonce et il annonce mon histoire, donc en fait tout le monde tape sur les sortes de barrières sur le côté, et en fait ces 350 mètres ils sont trop courts, je me dis j'ai
parce
pas
que c'est une belle récompense, ouais, ce moment là cette clameur,
j'ai pas le temps d'en profiter, j'ai pas le temps de prendre toute cette force, et limite là j'ai l'impression que je peux recourir. pourquoi j'ai pas couru avant, et au fin de compte bah, cette ligne d'arrivée elle est trop proche, j'ai pas le temps de même d'échanger avec les gens qui ont couru avec moi, enfin, je me suis dit, ouais, on est arrivé, c'est cool.
Vous bouclez donc ce marathon tous ensemble en 5h31 minutes. Est-ce que tu te souviens de la première chose que tu as ressenti au moment de franchir la ligne d'arrivée? Alors, moi, j'ai vu des images. Est-ce que tu as eu le temps finalement d'avoir la possibilité de ressentir des choses? Parce que très vite, il y avait beaucoup de médias qui sont venus sur toi, on parle vraiment de quelques mètres, donc quelques secondes après la ligne d'arrivée, est-ce que tu as eu quand même ce moment à toi pour pouvoir réaliser et puis être satisfait, fier, heureux, accompli, ou est-ce que tout de suite ça a été un autre, finalement une autre forme de course qui a démarré?
J'ai pas eu trop le temps de réaliser, à peine j'avais passé la ligne d'arrivée que je me suis arrêté, que j'étais happé par, il y avait une horde de journalistes devant moi, un petit mur, mais en fait je le regrette pas parce que moi c'est ce que je souhaite, c'est le médiatiser au maximum, mais en fait pas médiatiser Alexandre Alain, moi ma personne, c'est médiatiser le message que je souhaite véhiculer, et ça c'était, ça c'est super d'avoir cette horde de journalistes, mais en même temps, en fait, je peux pas tout de suite prendre dans mes bras mes proches, les gens qui ont couru avec moi. Donc ça, je prends le temps, mais qu'après, une fois que les interviews sont terminées, mais j'ai du mal à réaliser qu'on vient de courir 42 km, que ça fait 5h30 qu'on est parti et que ça a été quand même une bonne dose de plaisir au début, mais une très grosse dose de souffrance après.
Est-ce qu'il y a aujourd'hui, donc on est à peu près 2 semaines, je pense, après, une dizaine de jours après, est-ce qu'il y a une image que tu retiens plus particulièrement de cette course, un mot, une émotion? C'est quoi l'empreinte que tu en as aujourd'hui?
En fait, c'est même pas au moment même, c'est quand j'ai vu après des vidéos où moi j'intériorise beaucoup ce que je vis, mais en fin de compte, je vois mon coach qui est en sanglots à côté de moi, mais ça je l'avais même pas vu le jour J. Je vois mon beau-frère qui pleure, ça je l'avais pas vu non plus. Enfin, tout le monde a versé sa larme et était touché du fait que j'ai réussi et que le message était 100% réussi. Mais en fin de compte, tout ça, moi, je l'ai pas vécu, cette émotion, cette sensation qui était en moi, mais je l'ai pas partagé avec eux. Et quand je vois... en fait, je rigolais tellement avec eux et ils m'encourageaient tellement que je savais pas réellement eux ce qu'ils vivaient et ce qu'ils vivaient réellement leur course ou ce qu'ils vivaient la mienne. Et donc, les voir comme ça... libérer leurs émotions au moment de la ligne d'arrivée et quand je suis passé, bah c'est fort, c'est plus que fort, et c'est les images que j'ai en tête là quand je ferme les yeux et que je vois les vidéos.
Avec du recul aujourd'hui, est-ce que ce marathon il a tenu ses promesses? J'imagine qu'il les a même très largement excédé, dépassé.
Oui, je pensais pas que la course à pied pouvait véhiculer de tels messages. Ça m'a appris tellement sur moi, j'ai été cette force collective autour de moi, les centaines de messages que j'ai reçus, je me suis dit, mais j'ai couru 42 km. Enfin, c'est pas extra. C'est comme je disais avec Spider-Man, c'est que c'est pas extraordinaire. On était, je crois qu'on est 30 000 à avoir franchi la ligne d'arrivée cette année. Donc, je suis un parmi 30 000. Mais pourtant, mon histoire, les messages que je veux véhiculer, ça touche les gens et moi, ça me donne tellement de force en fait. Ça me donne envie de repas. Là, oui, je sais que si je me engage sur un marathon, il va y avoir cette souffrance-là, mais j'y suis prêt.
A posteriori, qu'est-ce qui t'a paru le plus difficile à gérer? C'est ce mur?
Oui, c'est ce mur. Mais j'ai été loin dans la souffrance. À un moment donné, j'ai marché, mais j'étais obligé de marcher parce que j'étais loin, loin dans la souffrance. Et peut-être que j'aurais pu continuer un peu plus longtemps juste à courir, mais c'était dur et... Franchement, j'ai déjà été très loin et ça m'a prouvé à moi que j'avais quand même ce mental et que je l'aime et je sais le mettre en pratique aussi.
Donc un boost de confiance énorme là pour la suite, pour tous tes prochains défis?
Oui.
Et pour mais même ton quotidien d'ailleurs?
Un boost de confiance, mais en même temps, le doute me fait avancer. Le doute me fait me remettre en question et en fait, je pense qu'on est meilleur quand on ne doute pas. Enfin, on reste peut-être sur ses acquis ou des choses comme ça. Et le doute, moi, me fait avancer dans tous mes projets de ma vie. J'ai besoin de... pas tout le temps d'avoir le doute, sinon on fait rien. Mais ça me fait avancer. Moi, le doute me fait avancer et me fait remettre en question et aller plus loin. Donc oui, ça m'a donné un boost de confiance de terminer ce marathon. Mais pour autant, si je me rengage sur une course, je ne vais pas venir... oui, c'est bon, j'ai fait un marathon, ça ne me fait pas peur. Même un 10 km maintenant, hein, je préfère y aller et me dire... Bon, voilà, visualise, entraîne-toi correctement. C'est pas parce que t'as fait 42 qu'aujourd'hui ça va bien se passer sur 10. Ça se trouve, tu vas autant souffrir sur les 10 là que sur le 42 que t'as fait. Donc oui, ça m'a donné de la confiance, mais en même temps, j'y vais avec humilité.
Ouais, moi, c'est vraiment ce que j'ai appris aussi à titre personnel. Il n'y a jamais de course facile, en fait. Tu vas faire un marathon, tu peux te retrouver en grande difficulté sur un 10 km. Voilà, il n'y a pas de règle. Et effectivement, il faut être assez humble par rapport à ce qu'on est en capacité de faire et voilà, toujours se préparer au mieux et se donner toutes les chances de réussite en acceptant que ça ne marche pas à tous les coups. Merci beaucoup, Alexandre, d'avoir partagé avec nous ce marathon de Paris définitivement épique. Alors, je voulais te parler d'avenir, c'est une question que je pose souvent dans le podcast. Je sais que systématiquement, on te demande, et tu l'as dit tout à l'heure lors de nos échanges, on te parle de ton prochain projet. Je sais qu'il est aujourd'hui secret, donc je ne vais pas essayer de te tirer les verres du nez. Par contre, comment est-ce qu'on peut suivre son avancée? Je pense qu'il va y avoir des enjeux à un moment de partenariat, de financement. Comment est-ce que les gens peuvent t'aider, te contacter et suivre ça au moment où le moment sera venu d'en parler? Comment est-ce qu'on peut être sûr de ne pas passer à côté de cette information et puis venir accompagner ce projet-là à tes côtés?
Bah, je suis déjà en train de construire le nouveau gros projet parce qu'en fait, dans ce projet-là, il y en aura des plus petits. Je le dévoile au grand public en janvier 2022 ou, début février. Donc en fait, là, je suis en train de faire tout le travail de recherche de partenaires parce que là, c'est ce projet-là qui se terminera en septembre 2023. C'est une enveloppe budgétaire qui est de 300 000 euros. Donc c'est énormément d'argent. Donc là, je suis à la recherche de financement d'entreprises qui veulent partager mon histoire, mes valeurs, qu'on écrive l'histoire ensemble. Et en même temps, il y aura des plus petits projets, mais qui auront toujours les mêmes buts, toujours les mêmes messages. Et la course à pied va rester dans ma vie, c'est sûr.
Si vous avez envie de soutenir donc ce projet, écrivez-moi guillaume@courseepique.fr et puis je ferai suivre à Alexandre ensuite, voilà, si ça peut aider à boucler le financement. Et puis
merci.
Peut-être même l'emmener plus loin, ce serait vraiment génial. À plus long terme, est-ce qu'il y a un défi sportif? On parle de vraiment très loin. Défi sportif ou pas d'ailleurs, mais est-ce que tu as un rêve de gosse, hein, quelque chose que tu aurais envie d'accomplir, qui peut-être aujourd'hui, c'est pas le bon moment, à moyen terme, ça l'est pas, mais est-ce que tu as un rêve secret que tu nourris depuis toujours, ou qui sera peut-être plus secret si tu me le racontes, mais...
En fait, moi, c'était pas un rêve de faire un tour d'Europe, de faire un tour de l'Atlantique ou de faire un marathon. Les rêves, moi, ça devient un rêve au moment où je me dis je veux le faire. Le marathon de Paris, c'est devenu un rêve au moment où j'ai vu cette date. C'est devenu un rêve de dire que j'allais être marathonien. Et c'est comme ça dans tous mes projets. C'est que je fais des rencontres qui me parlent d'autres aventures. Et ça devient un rêve au moment où ça se concrétise, où je me dis c'est ça que je veux faire. J'ai un très gros projet, mais que je garde pour moi dans une dizaine d'années, un très très gros projet sportif. Mais à moyen terme, et ça c'est pas me cacher, c'est on en parlait tout à l'heure, faire le half marathon des Sables, c'est quelque chose déjà moi qui me fascine et qui me donne envie de découvrir ça, et c'est des choses qu'à moyen terme je pense que j'ai envie de faire. Oui,
bah, viens avec moi l'année prochaine, septembre 2022.
Avec plaisir.
À Fuerteventura. Je te propose, en guise d'avant-dernière question de ce podcast, de conclure non pas avec le mot de la fin, mais avec le motto de la fin. Est-ce que tu as une citation très emblématique pour toi et qui est riche de sens sur ta façon d'appréhender la vie?
Il ne faut pas se fixer de limites parce que c'est les autres déjà qui s'en chargent. Si on se donne des limites à soi-même, on va nulle part parce qu'il y a déjà tellement de personnes autour de nous qui vont nous mettre des limites parce qu'en fait, c'est leurs propres limites. Ils retranscrivent leurs peurs sur nos projets. Et moi, quand je parle de projet, ma famille au départ, c'était « Wow, tu nous fais peur ». Maintenant, ils s'y sont habitués, et même mes proches.
Ils te poussent maintenant, ils t'encouragent.
C'est ça, mais parce qu'en fait, il y a tellement de personnes qui vont déjà nous mettre des limites, encore plus moi avec la mucoviscidose, greffer les poumons. « Ah non, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas ». Alors si moi-même, je me dis que je peux pas faire des choses, ben voilà, faut pas se fixer de limites parce que les autres s'en chargeront.
Est-ce que tu as un dernier message à faire passer aujourd'hui, sur lequel tu voudrais t'apesantir un peu plus, à faire passer aux malades, à leurs proches, au grand public? Comment est-ce qu'on peut aider, contribuer à sa hauteur? Voilà, est-ce que tu as une dernière chose que tu voudrais ajouter?
C'est montrer que sur le papier, j'ai rien d'aventurier, que je pars de loin, que passer de 13 minutes à la 5h31 d'effort. Si moi je le fais, je ne suis pas extraordinaire, je n'ai pas des super pouvoirs. Faut juste en fait jamais perdre espoir. Le mental est un outil primordial qu'on ne met sûrement pas assez en pratique, et même moi le premier, hein, j'explore encore mon mental et cet aspect de visualisation. Faut pas perdre espoir et faut se fixer des objectifs et des caps. C'est ça qui permet de tenir, et moi en tout cas c'est ça qui me permet de vivre, c'est d'avoir des objectifs et de se dire j'ai cet objectif là, oui la route va peut-être pas être droite, va peut-être être sinueuse, mais je sais que je serai là.
C'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci beaucoup Alexandre d'avoir partagé avec nous ce qui s'avère être évidemment bien plus qu'une course épique, le titre du podcast est un peu mensonger. Merci pour ton témoignage extrêmement précieux. Les auditeurs du podcast m'écrivent très régulièrement pour me dire combien les invités que je reçois les inspirent, les motivent, les aident à se lancer dans des projets qu'ils auraient pensé inaccessibles. Donc voilà, ton témoignage empreint d'espoir, de positivité, de force et de résilience, c'est une formidable illustration de cette idée qu'il faut toujours y croire. Et je suis absolument convaincu qu'il a profondément touché nos auditeurs. Ce message d'espoir que tu portes, il doit être entendu évidemment le plus largement possible pour aider et accompagner les malades et leurs proches qui sont touchés par cette maladie, mais aussi sensibiliser et mobiliser le grand public. Je suis très heureux qu'à sa très modeste hauteur, Course Épique ait eu le plaisir de donner à entendre ton histoire et ces messages que tu tiens à partager. Voilà, merci pour tout ça Alexandre. Je te souhaite, comme tu l'as toujours fait, de continuer à t'accomplir pleinement dans tous les projets auxquels tu vas donner corps à l'avenir. Et je doute pas qu'ils seront très nombreux.
Merci.
À très bientôt, merci Alexandre.
À très bientôt.
Merci à tous de nous avoir suivis, j'espère que cet épisode vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à mettre le maximum d'étoiles sur iTunes, cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Merci et à très bientôt pour notre prochain épisode de Course Épique.